Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
n'a pas d'époque, elle marque.
Son époque.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes? Comment habitent-elles leur corps de femme? Que pensent-elles? Écrivent-elles? Pendant la campagne présidentielle, La Poudre parle politique. Une fois par semaine, je reçois une femme qui compte dans le paysage politique français. Je suis Lorraine Bastide et cette semaine, mon invitée est Najat Vallaud-Belkacem.
C'est quand même bien agréable de pouvoir compter en effet sur une forme de sororité, de combat, c'est clair.
Cet entretien a été réalisé le 24 février 2017 au ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle à Paris. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez 39 ans. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche depuis 2 ans et demi, ce qui fait de vous la numéro 4 du gouvernement et vous place à la tête de 12 millions d'élèves, 1 million d'enseignants et du premier budget de l'État. Avant cela, vous avez été ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement. Vous faites partie de la poignée de ministres, vous êtes 6, à avoir conservé un portefeuille pendant toute la durée du mandat de François Hollande. Un quinquennat qui a été marqué par plusieurs remaniements, pas mal de crises, surtout des attentes qui ont endeuillé la France. Vous avez vous-même été ciblé par des attaques virulentes. Pardonnez-moi, l'introduction est un peu longue, mais ce que je veux dire, c'est... Comment ça va?
Ça va très bien, je vous remercie.
Comment on tient? Vous n'avez jamais fléchi, en tout cas pas publiquement. Qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant ces 5 ans si intenses?
D'abord, c'est vrai que ça a été 5 ans très particuliers. Si je devais retenir une chose plus que d'autres, je pense que la période des attentats est celle qui a été la plus marquante quand on est ministre, a fortiori ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'en effet, on a la responsabilité de ces millions d'élèves et de leurs enseignants que vous évoquiez, et qu'au lendemain des attentats, par définition, on se retourne beaucoup vers l'école hein, pour nous aider à comprendre, répondre à nos questions quand on est élève et même quand on est parent. Oui, la gestion de l'après-attentat a été un moment pour moi très marquant, que j'oublierai absolument jamais. Et puis de manière plus générale, pour la responsable politique que je suis, ça a été des moments où notre pays a vacillé. Il y a eu plus ou moins d'union nationale, de capacité à faire communauté. C'était le cas au lendemain de janvier, c'était un peu plus difficile au lendemain de novembre, c'était carrément problématique au lendemain de Nice. Donc, pour la responsable politique que je suis, c'est vrai que ça a été des moments aussi d'inquiétude et puis de mobilisation autour de mais qu'est-ce qu'on fait pour quand même redonner envie aux gens de vivre ensemble, tout simplement.
On doute dans ces moments-là?
Oui, enfin, on doute. On est inquiet parce qu'on est responsable, en fait, tout simplement. On ne se laisse pas aller à la facilité. Certains le font, honnêtement, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ma nature, se laisser à la facilité. De rechercher le bouc émissaire sur qui on va taper publiquement, donnant l'impression aux gens que la meilleure façon de résoudre le problème du terrorisme, c'est d'exclure une partie de la population française. Enfin, bon, donc quand on ne va pas dans cette facilité-là et qu'au contraire, on essaye d'être rigoureux dans la pensée et de chercher quand même à atteindre le bien commun, c'est complexe. Pour ce qui me concerne comme ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, par exemple, c'est le moment où j'ai fait beaucoup appel aux chercheurs. Ouais. J'ai créé des postes à l'université pour qu'on réfléchisse sur les questions de radicalisation, d'islamologie, des choses qui manquaient auparavant. J'ai créé un conseil scientifique de la radicalisation dans lequel on retrouve des chercheurs, des élus locaux, pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux réponses à apporter. Donc la pensée, beaucoup. Et puis pour ce qui est de l'action, c'est beaucoup passé par ce qu'on fait dans les écoles. Par exemple, ce qu'on développe autour de l'enseignement moral et civique pour développer la citoyenneté des élèves et leur esprit critique. Ce qu'on fait autour de l'éducation aux médias et à l'information, qui, il faut quand même le préciser, n'était pas fait avant. Tout ça, c'est des nouveautés, hein, ce dont je parle. l'éducation aux médias et à l'information pour apprendre aux élèves à se méfier de la désinformation qui circule sur le web et donc de l'embrigadement idéologique ou religieux qu'on peut y trouver. C'est comme ça que, pour répondre à votre question, j'ai tenu, c'est par l'action.
Par le travail.
Oui, par le travail. Rigueur. Oui, parce qu'il y a une forme d'adrénaline qu'on trouve aussi dans cette mobilisation totale de soi-même, dans la recherche de solutions permanentes qui fait qu'on tient.
Et il y a quelque chose de personnel en vous qui fait que le travail est votre cours en cas de crise ?
En fait, moi, je me pose pas de questions sur cet aspect-là des choses, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait pas que je me repose, est-ce qu'il faudrait pas que je consacre plus de temps à ma vie personnelle. Les questions sont là, évidemment, et notamment pour ce qui est de l'articulation avec ma vie personnelle, étant entendu que j'ai deux enfants quand même assez jeunes. Mais je suis tellement consciente qu'être ministre, c'est une situation exorbitante de droit commun, que je considère que à une telle situation répondent des solutions qui elles-mêmes sont exceptionnelles. Donc oui,
portée par la fonction en fait.
Oui, pendant le temps du ministère, en effet, je me suis résolue à ne pas vraiment avoir de week-end, ne pas vraiment pouvoir faire plein de choses que les gens qui ont le temps normal font. Mais ça ne dure qu'un temps, être ministre, et c'est une responsabilité tellement exceptionnelle que
mais
ça vaut la peine.
Mais vous l'avez tenu longtemps.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'en suis heureuse, honnêtement, parce que vous le rappeliez, on est quelques-uns, mais pas très nombreux, à être restés depuis 2012. Moi, d'abord, j'en suis heureuse parce que ça m'a permis d'avoir des expériences très différentes. J'ai adoré le ministère des droits des femmes, sincèrement, ça m'a profondément marquée et c'est des sujets sur lesquels je continuerai à me mobiliser, à me battre toute ma vie. J'ai adoré le ministère de l'Éducation aussi parce que même si ça peut paraître plus difficile, et c'est vrai que c'est très difficile parce que l'éducation est un sujet polémique à temps plein, tellement passionné, passionnel, que c'est le combat permanent contre les procès d'intention, les contre-vérités, tout cela, mais derrière tout ça, il y a quand même surtout une action qui est éminemment importante pour à la fois redresser notre école, pour donner plus aux élèves des quartiers les plus défavorisés, pour faire en sorte que notre enseignement supérieur renoue avec l'excellence. Enfin, c'est passionnant ce qu'on fait là.
Et c'est lié à l'enfance, et justement la transition est toute trouvée pour parler de votre enfance. Vous avez grandi jusqu'à l'âge de 4 ans dans un petit village du nord du Maroc, dans la vallée du Rif. Quels souvenirs gardez-vous de cette partie-là de votre enfance ?
En fait, comme j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, parce qu'il s'est passé tout de même beaucoup de choses dans ma vie, les souvenirs ont effacé les souvenirs les plus anciens, peu à peu. Et c'est vrai que pour écrire ce livre, « La vie a plus d'imagination que toi »,
C'est votre autobiographie que vous venez de publier ?
Oui, en quelque sorte, même si c'est plus qu'un simple récit personnel, c'est aussi un propos politique, mais
tout à fait.
Ça commence par un récit personnel de mon propre parcours. Et pour l'écrire, j'ai dû faire appel à des souvenirs qui étaient vraiment enfouis au fond de moi, et ça n'a pas été un travail si simple que ça, finalement, que de retrouver en effet les images, les flashs...
Les sensations, en plus,
les sensations
qu'on garde, j'imagine, avant 4 ans, c'est moins...
De cette fillette que j'étais, en effet, avant 4 ans au Maroc, puis l'arrivée en France à 4-5 ans, la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue... de nouveaux codes aussi, parce que moi je venais de la campagne profonde et j'arrivais aussi en urbanité, donc ça change un peu. Oui, c'est vrai que ce parcours finalement, même si à certains égards parfois j'ai pu l'oublier dans mon cheminement pour pouvoir avancer plus légère, pour me délester, il n'en reste pas moins qu'il m'a construite et qu'il fait une part de ce que je suis aujourd'hui, des combats qui sont les miens.
Oui, très certainement. Vous avez d'ailleurs, je ressens encore dans vos paroles une pudeur, une timidité à en parler, que vous évoquez dans la préface de votre livre. Vous avez très peu parlé de votre famille depuis le début de votre carrière politique, mais dans votre livre, donc, vous parlez un peu de votre maman, de façon très pudique. D'ailleurs, le titre du livre, c'est une phrase de votre maman. C'était quel genre de femme, votre mère ?
Quelqu'un d'extrêmement bienveillant. marrant parce que la bienveillance de nos jours, c'est un terme qui est si souvent dénigré dans le débat public qu'on a fini par croire que c'était quelque chose de péjoratif.
On dit bien-pensant maintenant à la place.
Oui, mais
hein,
même bien-pensant, c'est aussi dénigré, ouais, vous voyez. Ouais. Tout ça est absolument ridicule. Je veux dire, il n'y a pas plus belle qualité que la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire veiller bien sur l'autre. Donc l'accompagner au maximum, faire en sorte qu'il... s'épanouit. Elle est comme ça, ma mère. Elle est vraiment dans la bienveillance. Donc, c'était une femme, à l'époque de mon enfance, mes premiers pas en France et dans ma scolarité, qui ne maîtrisait pas le français, qui n'était pas en capacité de nous aider véritablement à faire les devoirs, mais qui était là tous les soirs à vérifier qu'on avait fait ce qu'il fallait quand même, à nous encourager plutôt que mettre la pression, à nous pousser à aller au-delà... de ce qu'on pouvait imaginer a priori, d'où cette phrase « la vie a plus d'imagination que toi » et elle a tellement raison, c'est vrai que d'abord c'est une phrase qui fait du bien quand on finit par y croire, et moi maintenant j'y crois, qui fait du bien dans les moments de doute ou de trouble, quand on vient d'être défait de quelque chose, qu'on a raté un concours, un examen, un projet... Ça fait du bien de savoir que nous, on se croit au fond du trou, mais non, la vie a plus d'imagination et donc on peut rebondir d'une façon qu'on n'a pas envisagée.
Ça ouvre les possibles.
Ça ouvre les possibles, exactement. Donc en fait, je considère qu'elle m'a ouvert les possibles et je lui en suis d'autant plus reconnaissante, c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup, qu'elle-même, je trouve que peu de possibles lui ont été ouverts et que c'est aussi en filigrane par rapport à ce qu'elle n'a pas eu et ce qu'elle peut légitimement déplorer de ne pas avoir eu que je me suis construite faire des études supérieures longues parce qu'elle n'a pas eu accès à l'école, rechercher l'indépendance financière parce qu'elle ne l'a pas eu, être féministe dans l'âme et rechercher l'égalité entre les hommes et les femmes parce que ce n'est pas l'expérience qu'elle a faite. Voilà.
C'est vrai que ce qu'on lit entre les lignes, c'est un schéma familial assez proche, disons, des rôles de genre contre lesquels le féminisme essaye de se battre. Votre maman, vous la décrivez même comme Cendrillon, on détourne un paragraphe. Votre papa, on le sent plus absent, très absorbé par un travail d'ouvrier. Je crois qu'il a poussé loin du Maroc quand vous étiez toute petite. Et je me demandais, vous venez de me répondre en quelque sorte, hein, si votre engagement politique venait de ce modèle parental que vous avez eu.
Oui, oui, même si moi je suis attachée à une chose dans mon engagement politique, c'est bien sûr que les expériences qu'on a connues nous forgent un certain nombre de combats, de valeurs, etc. Mais attention à ne pas mener que les combats qui correspondent à l'expérience qu'on a vécue. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous en donner un exemple. Moi je suis très engagée de longue date contre l'homophobie. Pour l'égalité des droits entre citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle. Pour autant, je n'ai pas fait l'expérience de l'homosexualité ou d'être victime d'homophobie moi-même et dans mon entourage non plus. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir s'associer à un combat qui, en fait, est un combat universel, même quand on ne l'a pas vécu soi-même.
C'est une forme de discrimination, vous parlez de l'homophobie, mais il y a beaucoup de combats politiques qui se rejoignent, notamment dans le féminisme, parce que c'est une forme de domination d'une partie de la population sur une autre, donc on la retrouve, il y a des similitudes quand même.
Oui, oui, c'est vrai. De toute façon, tout ce qui consiste à établir une hiérarchie entre les personnes en fonction soit de leur couleur, soit de leur sexe, soit de leur orientation sexuelle, soit tout plein de choses, leur conviction religieuse... Tout cela est détestable. Et en fait, c'est ça qu'il faut combattre, finalement. Tous les combats découlent de ce principe-là. Il n'y a pas de raison d'établir de hiérarchie entre les gens. C'est pas vrai. On est des êtres humains. Il n'y a pas de raison de partir du principe que c'est normal de donner moins de chance à un tel ou à une telle. Non. Et notamment quand un tel et une telle sont des enfants. C'est pour ça que je me bats comme ministre de l'Éducation nationale. Et au fond, ce qui se cache derrière les fameuses polémiques qui ont cours tous les jours sur l'Éducation nationale, c'est vraiment cette question-là. C'est est-ce qu'on considère que tout enfant est éducable et si possible le plus loin possible ? Ou est-ce qu'on se résout à abandonner une partie des enfants parce que, ils n'étaient pas dans le bon cadre pour faire un jour partie de l'excellence et de l'élite, donc ce n'est pas la peine de leur offrir des options, des choses qui vont les faire grandir, et même allant jusqu'à les trier dès l'âge de 12 ans, selon certains, voire plus tôt. Non, moi, tout ça, ça ne me convient pas. Et donc, tout mon combat, c'est de dire précisément, n'établissons pas d'hierarchie entre les gens. Allons chercher dans chacun d'entre eux le meilleur potentiel possible.
Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance ?
Je crois que je le suis de naissance dans le sens où... d'abord, moi, j'aime beaucoup la féminité. vous voyez, je suis contente d'être une femme, en fait. Je crois que ça m'ennuierait d'être un homme. je trouve que c'est quand même beaucoup plus marrant, compris de se poser des questions esthétiques, enfin, voilà, de changer de coupe, de coiffure, de coupe ou de coiffure, de pouvoir s'habiller... façon très variée, très colorée. J'aimerais pas. Je trouve que c'est plus grisâtre d'être un homme, en fait.
Ça, vous le sentiez déjà quand vous étiez petite fille ?
Ouais. Oh, ouais. Ouais.
D'ailleurs, il y a quelque chose dans votre livre qui m'a fait sourire. Vous racontez que vous êtes engagée auprès d'étudiants en stylisme, de créateurs de mode, à porter leurs créations à chaque séminaire, chaque mercredi. Vous l'avez fait.
C'était génial.
Et il y a des photos de vous. On vous voit en robe hyper colorée, hyper vive, ce qui est quand même très audacieux en politique. On sait ce qui arrive quand on se met en robe à l'Assemblée, quand même.
Ouais, c'est vrai.
C'est fort d'avoir fait ça.
Oui, mais franchement, c'était le moins que je pouvais faire pour ces jeunes bacheliers professionnels, donc métier de la mode. Lycéens professionnels qui sont tellement touchants vraiment, je trouve pas d'autres mots pour les qualifier parce que d'abord ils sont doués de leurs 10 doigts, hein, ce que je ne suis pas, ils ont des rêves plein les yeux, ils ont pas tant d'occasions que ça d'être valorisés. Moi, c'est un vrai sujet pour moi, les lycéens professionnels. Je trouve quand même que derrière les discours permanents sur il faut revaloriser l'enseignement professionnel, on entend ça dans tous les discours politiques. Allons creuser un petit peu et voir la réalité de ce qui se fait. Honnêtement, il y a très peu de gens qui s'y intéressent suffisamment pour aller valoriser sur le long terme. Et il y a qu'à voir, mais c'est ce que je raconte dans le livre, il y a qu'à voir les réformes qu'on a adoptées sur l'enseignement professionnel pendant ce quinquennat, qui sont quand même très 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 importantes, précisément pour en faire un enseignement choisi et pas subi. Elles ont à peine été commentées, ça n'intéresse personne. Alors là, pour le coup, ça ne va pas faire polémique parce que ça n'intéresse personne. C'est pas sérieux, c'est important, là, les 700 000 jeunes qui passent par les lycées pro, ça leur plairait qu'on parle d'eux en positif. Et donc voilà, cette anecdote de porter leur tenue vestimentaire, moi, ça m'a fait en tout cas super plaisir. Et eux, je crois aussi, parce que du coup, je leur envoyais aussi les photos parce qu'il y avait tout le temps... une cascade de photos qui était prise à la sortie de l'Élysée. Ouais. Et ça leur fait des souvenirs marrants. Quoi.
Ah, puis vous étiez bien. Non, mais c'est vrai. Souvent, les femmes politiques, on les voit adopter le tailleur pantalon noir ou gris pour faire le moins de vagues possible, j'imagine. Vous avez eu le cran de le faire.
Ouais. Enfin, j'ai aussi fait le tailleur pantalon noir ou gris.
Oui, hein. Il y en a quelques-uns aussi. Mais quand même, il y a plus de fantaisie dans
ce que j'ai remarqué, c'est que les jours où vous vous levez avec...
Oui.
Pas trop l'envie et tout ça, pas envie de vous prendre la tête, vous allez chercher le noir et le gris.
C'est vrai, je connais. Moi, c'est jean et pull, mais c'est pareil. Vous vous rappelez de votre adolescence, de l'adolescente que vous étiez dans les quartiers nord d'Amiens, donc où vous êtes installée à peu près à votre arrivée en France avec votre famille ?
Alors, l'adolescente... j'étais quand même assez... on sortait pas beaucoup avec ma sœur aînée. Parce que dans la fratrie, on est 7 enfants. J'ai ma sœur aînée qui me dépasse d'un peu plus d'un an, puis moi. Puis il y a tout un écart de 7 ans avant que viennent les autres. Et donc les autres, on les a toujours appelés encore aujourd'hui les petits. Ils ont 30 ans, mais on les appelle les petits. On sortait pas beaucoup. Même pas du tout en réalité, notre sortie essentielle c'était l'école. J'ai pas eu d'expérience du style de celle que font aujourd'hui mes enfants par exemple, qui consiste à aller très régulièrement chez leurs copains le week-end ou à les accueillir. Je me souviens pas de tout ça. Et finalement, c'est pour ça que je suis revenue dans l'ouvrage sur cette expérience du théâtre. Parce que pour moi, ça a vraiment été le moment, une espèce d'éclaircie où il s'est joué beaucoup de choses, à la fois une espèce de petite confiance en soi qu'on prend parce qu'on monte sur scène, qu'une aventure collective, Ouais, donc c'était ça qui me portait beaucoup à ce moment-là, le théâtre. Et puis pour le reste, j'étais une grande lectrice, donc je passais infiniment de temps à la maison à lire.
Vous lisiez quoi ? Vous vous rappelez de quelques romans qui vous ont habité à l'époque ?
Bah, adolescente, si on considère que c'est vers 11-12 ans. Moi, j'ai été très, très... très touchée par un livre de Vasconcelos qui s'appelle Mon bel oranger. Mmh. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais à l'époque, il m'avait touchée aux larmes. Du coup, je m'en souviens. On ne se souvient pas de tout ce qu'on a lu. C'était l'histoire d'un enfant pauvre, orphelin, je crois, qui vivait chez ses grands-parents et qui n'avait pour tout confident que l'oranger du jardin à qui il allait parler. Bon, voilà, c'était visiblement assez triste. Après, un peu plus tard, dans les romans qui m'ont marqué, il y a Belle du Seigneur, mais là, on est plutôt à l'âge de 15 ans.
Tu n'as pas été marquée par Belle du Seigneur à 15 ans.
Ouais. C'est magnifique. Hein. Ouais. Mais marquée, moi, au point de l'avoir lu, je pense, 5 fois.
C'est vrai.
Sachant que c'est quand même un pavé.
Oui,
il fallait le faire. Je finissais par reconnaître des pages par cœur. Les dialogues entre Ariane et Solal... notamment quand ils en viennent à se disputer, je ne sais pas si vous vous en souvenez, oui, vers la fin, quand ça tourne mal, je les connaissais par cœur, ils étaient tellement beaux. C'est drôle. Mais oui, mais cela étant, je lisais vraiment de tout, hein, pas forcément de la grande littérature, mais en fait, ce que je trouvais formidable dans la lecture, c'est la dimension dépaysante, c'est qu'on pouvait s'inventer d'autres vies... En fait, c'était comme voyager, mais en restant chez soi.
Donc, pas de rébellion, pas de crise d'adolescence, pas de moment de révolte par rapport à...
Non, à l'ordre établi et tout ça, non.
Dans votre livre, vous décrivez quelque chose que vous le décrivez très bien, d'ailleurs. Les mots que vous employez sont très justes. Vous parlez d'une frontière invisible qui séparait le quartier où vous viviez du centre d'Amiens, du centre-ville. Vous aviez conscience des inégalités sociales qui séparaient ceux qui vivaient de votre côté du reste de la ville ?
Je pense que ces choses-là, on en prend plus conscience après. Sur le moment, justement, comme c'est invisible, en fait, on ne le sait pas. Et puis, pour reprendre cette très jolie expression de Jamel Debbouze, je trouve qu'elle est particulièrement juste. Un jour, il a dit, vous savez, moi, c'est le jour où je me suis installée dans le 16e arrondissement que j'ai compris qu'à Trappes, j'étais pauvre. Et en fait, elle est très juste, cette expression, parce que c'est vrai, quand vous vivez dans la pauvreté, etc., vous ne côtoyez que des gens qui vivent dans les mêmes conditions que vous. D'ailleurs, c'est presque la caractéristique de la pauvreté, c'est de ne côtoyer que des gens comme vous. Et du coup, vous ne savez même pas qu'au-delà de telles frontières invisibles ou pas, il y a un autre monde avec des privilèges, des conforts, des facilités, etc. Ce qui est pas mal à la limite quand ça se passe comme ça, parce qu'au moins vous souffrez un peu moins. Ce que je trouve intéressant, c'est que de nos jours, on est entré dans une autre ère dans laquelle tout est transparent par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, de tout, la télé et tout ça. Ce qui fait que les gens pauvres, pour aller vite, ont beaucoup plus conscience de l'étalage de richesse d'à côté et ça nourrit un ressentiment et une frustration à l'égard de la société tout entière, qui est infiniment plus grande que ce qui existait, il me semble, 30 ans plus tôt, quand j'étais enfant. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'en avait pas conscience.
Vous avez été protégée aussi, peut-être ? Parce que quand on a des parents qui sont engagés politiquement, qui peuvent nous sensibiliser à ces inégalités-là, vous avez été assez préservée, au fond, de ce genre de questionnement.
Oui, oui, et puis... Enfin, c'est ce que je décris un peu d'Amiens, mais c'est vrai que nous, au-delà du fait qu'étant des filles, on n'avait pas énormément d'occasions de sortie et tout ça, ou de permission de sortie, on était aussi dans un quartier où, il fallait se protéger en restant chez soi, quoi, parce que les gamins qui traînaient dans la rue finissaient par y faire des choses pas bien, quoi. Donc, c'est vrai que finalement, la rigueur de mes parents, de mon père plus exactement, ça nous a sans doute protégés, ça nous a maintenus à l'abri, ouais.
Alors, votre parcours, c'est celui de l'excellence scolaire jusqu'au concours de Sciences Po Paris, dont vous avez découvert l'existence toute seule comme une grande un jour à la bibliothèque, au CDI, je crois. Donc, vous réussissez. Est-ce que vous vous rappelez quels étaient vos modèles à l'époque ? Est-ce qu'il y avait des femmes qui vous inspiraient, à qui vous pouviez vous identifier ?
Alors, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que figurez-vous que quand j'étais lycéenne, j'ai, comme quoi le féminisme devait être installé en moi depuis longtemps. Je me souviens avoir mené un travail où on avait le choix pour faire une espèce d'exposé devant ses camarades, etc., de gros dossiers à construire sur plusieurs semaines. Et moi, j'avais fait le choix, qui avait même surpris un petit peu, parce que c'était original, de travailler sur Onsen Sunshi.
Ouh.
Ouais.
Et très politique.
C'est marrant, hein, parce que, ouais. Mais c'est surtout très, très volonté de trouver des modèles féminins. Ouais. Et donc, du coup, oui, j'avais quelques modèles en tête comme ça. Après, la difficulté avec cette affaire de modèle, c'est que un modèle, c'est quelqu'un dont vous voudriez adopter exactement toutes les facettes, être tout pareil que lui et tout. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé, moi, de femme politique qui ait réussi à la fois une vie politique, une vie personnelle, familiale, etc., au point que je me dise, c'est ça que je voudrais être tout pareil. Mmh. Cet équilibre-là, cette... Ouais, cet équilibre, pour l'instant, je trouve que c'est tellement difficile, en fait. J'espère que les choses se facilitent un peu pour notre génération, mais pour celles qui nous ont précédées, non, il n'y a pas eu de...
Dans ma question, il y avait une sorte de petite pensée cachée, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la représentation est importante et que pour trouver des modèles, il faut aussi avoir des gens qui nous ressemblent dans la société, dans lesquels on puisse s'identifier.
C'est vrai.
Et j'imagine qu'à l'époque où vous rentrez à Sciences Po, il n'y avait pas beaucoup de ministres avec vos origines sociales, votre éducation. Ça devait être difficile de trouver des gens. Déjà, il y a beaucoup d'hommes pour commencer.
Bien sûr.
Je ne sais pas, vous aviez conscience de ça à ce moment-là?
Oui, oui, je suis même frappée en fait. Quand j'arrive à Sciences Po, je suis frappée. Vraiment, par l'absence de diversité, tout simplement. Ça me paraît complètement incongru. Mais je le dis, alors ça fait... En plus, vous êtes blonde, vous allez mal le prendre.
Ah
mais...
non, non, mais allez, je...
mais je le dis dans le livre, ce qui me frappe, c'est d'abord qu'il y a une surreprésentation de blondes parmi les filles.
D'ailleurs, vous rappelez ce chiffre dans le livre, c'est dans la vie 10%, ouais. Dans les magazines 30%.
C'est incroyable.
C'est juste.
Il y a quand même un petit sujet.
Ça me révolte, même bon. Si je suis blonde, moi, je vous assure.
Et donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est l'absence, alors là, vraiment de diversité au sens origine différente, mais même très peu de provinciaux. Franchement, je crois que les choses ont évolué hein, depuis. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur Sciences
Po. On est en 2000 à ce moment-là.
Mais on est en 2000 et honnêtement, c'est quand même très uniforme et très homogène. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression d'être... on a l'impression qu'il y a une espèce d'effraction par rapport à la société telle qu'elle est. Et en fait, tant qu'on ne se pose pas cette question-là, c'est la société telle qu'elle est qui a l'impression d'être en effraction par rapport à l'élite, aux institutions, etc. Et c'est pas normal, quoi. Il y a un moment, je dis pas qu'il faut que ce soit un miroir, mais il faut que ça corresponde un peu plus. Et sinon, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire arriver plus d'enfants avec des histoires différentes jusqu'à la porte de cette grande école? C'est peut-être qu'on les y a pas suffisamment préparés, qu'on leur en a pas suffisamment parlé, etc., etc.
Vous aviez l'obligation de l'excellence?
Intérieurement, moi, ce que je ressentais, mais je pense que ça, c'est vraiment propre aux enfants de familles issues de l'immigration, c'est une espèce d'urgence à réussir. C'est-à-dire que dans ces familles-là, et pour leurs enfants, on a le sentiment pressant qu'il faut réaliser en une génération ce que des familles installées en France, etc., réalisent en 3-4 générations. Parce que dans les familles installées en France, françaises, etc., on voit aussi des histoires de mobilité sociale où l'arrière-grand-père est ouvrier, puis ensuite le père est employé, puis ensuite... voilà, j'en ai oublié un. Le grand-père est employé, le père est cadre.
Et les échelons sont grimpés.
Voilà, les échelons sont grimpés génération par génération. Et c'est vrai que dans les familles issues de l'immigration et dans leurs enfants, il y a souvent cette espèce de sentiment qu'on n'a pas le temps pour faire ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Toujours cette inquiétude de finalement, peut-être qu'un jour on nous renverra ailleurs. Je ne dis pas chez nous parce qu'on ne considère pas que le ailleurs soit chez nous, mais qu'on nous renverra ailleurs. Et donc, il y a une urgence à s'installer véritablement et à raccourcir ce temps. Donc ça, je pense que c'était en moi, comme à mon avis, c'était en chacun de mes frères et sœurs, d'ailleurs, quand je vois un peu leur parcours professionnel, eux aussi.
Votre grande sœur, c'est une avocate brillante, bah, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ma grande sœur est avocate, les autres, bon, chacun a suivi sa voie entre le commerce, le théâtre, la recherche, l'avocature, l'architecture. Je crois que j'en oublie pas. Donc finalement, il y a ça. Maintenant, est-ce que c'est une recherche de l'excellence? C'est surtout viser haut, parce que de toute façon, il vaut mieux viser haut, y compris pour avoir un peu moins haut, mais haut quand même.
Les mots « bon élève », « appliqué », c'est des mots qui reviennent souvent quand on parle de vous dans les médias. Est-ce que ce sont des adjectifs que vous vivez bien?
Oh, ça ne me dérange pas. C'est très réducteur.
Comme tout adjectif visant des femmes politiques, je crois, dans les médias.
Oui, c'est
général.
Ça. Non, c'est très réducteur parce que, en plus, c'est nous tous, hein, vous, moi, on a tous des personnalités complexes. On est à la fois disciplinés et sauvageons, on est réfléchis et passionnés. Donc, de toute façon, tout adjectif, en effet, est un peu réducteur. C'est sûr que c'est marrant parce que c'est des adjectifs, ceux que vous avez évoqués, qui sont souvent accolés aux femmes. Mm-hmm. Et en plus, accolés sur un mode péjoratif. Ça me fait beaucoup rire. Quand même, hein. Je trouve que les observateurs et ceux qui écrivent ce genre de choses devraient s'interroger, parce que dans le même temps qu'ils réclament que nos enfants à l'école soient disciplinés, sages, etc., quand ils utilisent ces adjectifs à notre égard, les femmes politiques, en fait, c'est des critiques. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se mettent en accord avec eux-mêmes, quoi. Soit c'est une qualité, soit c'est un défaut.
C'est vrai que la longueur de la jupe, pas qu'elle soit ni trop courte ni trop longue,
c'est
en fait,
exactement,
hein. Ça va jamais.
Donc... Bon, voilà, moi ça me dérange pas plus que ça, mais je pense que je suis aussi autre chose que ça.
Alors, j'ai essayé, pour enchaîner très naturellement sur ce que vous venez de dire, de faire le tour des attaques sexistes les plus emblématiques dont vous avez été l'objet. C'est quasiment impossible, hein. Il y en a eu quand même un bon paquet. J'ai fait un petit florilège, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je trouvais ça bien aussi de les rappeler. Le conseiller UMP Franck Keller, qui s'interroge en septembre 2014 sur les atouts que vous avez utilisés pour convaincre François Hollande de vous donner un grand ministère. Le journaliste du Point, Jean-Paul Brégueli, qui parle de votre soutif et de vos bijoux, comme des écrans de fumée quand vous parlez à l'Assemblée. Ou ce charmant député UMP, Foucault, qui trouve que vous suceautez sensuellement votre stylo sur Twitter. Honnêtement, comment on fait pour garder son calme et surtout sa dignité dans un contexte pareil?
On a beaucoup d'humour.
Ah oui, il en faut, je pense, quand même, non? C'est dingue.
Et de sens de l'autodérision. On est charitable. Vraiment, on est très charitable et bienveillant à l'égard de son prochain. On n'est pas rancunier, puis surtout, on est occupé par des choses tellement plus importantes que tout cela. C'est des bêtises, tout ça. Mais en même temps, c'est bien que ces bêtises-là, à défaut d'être. De recevoir à chaque fois réplique de la part de celle qui en est victime, c'est bien qu'elles soient notées par les observateurs. Ouais. C'est un peu comme, par exemple, l'histoire de la robe de Cécile Duflot. Je trouvais ça très bien que Cécile Duflot ne fasse pas de réponse là-dessus. Dans mon souvenir, elle n'a pas créé une polémique autour de ces sifflets et tout ça. En revanche, il était nécessaire, et j'avais pris part à cela à l'époque, que l'opinion publique dise son intolérance à l'égard de ce type de pratique. Mmh. Et ça a été fait. Sur les réseaux sociaux, beaucoup, tant et si bien que les médias se sont sentis obligés d'embrayer. C'est très bien, comme que les réseaux sociaux, des fois, ça peut avoir du bon. Et ça, je trouvais que c'était bien parce que ça disait que notre niveau d'intolérance à l'égard des attaques sexistes s'était élevé. Ça, c'est bien parce qu'il y a 5 ans, je vous assure que ce serait passé inaperçu.
Ça serait passé, ouais.
Vraiment. Donc, finalement, par rapport aux propos que vous me rappeliez, je ne pense pas qu'il fallait que je réagisse outre mesure, moi, parce que c'est leur donner plus d'importance qu'ils n'en méritent, mais c'est toujours bien quand d'autres réagissent, en fait, pour leur faire comprendre que ce n'est pas possible.
Vous avez aussi subi des attaques racistes, extrêmement nombreuses. Est-ce qu'elles sont plus douloureuses
que les sexistes?
C'est une hiérarchie un peu bizarre que je vous demande de faire.
Non, je comprends.
Mais...
Ben non, enfin moi je le mets sur le même plan. Après, ça dépend de la nature des attaques racistes. Je veux dire, honnêtement, quand Christiane Taubira se fait traiter de singe, là, on dépasse tous les radars possibles de la nullité crasse et de la gravité des propos. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, en fait, quand on est dans une déshumanisation, parce que c'est ça le sujet, quand on atteint une déshumanisation, c'est pas seulement que c'est intolérable, c'est que... le condamner avec la plus grande force, tolérance zéro, etc. Après, le reste, j'allais dire, ça se vaut, parce que vous savez, les attaques sexistes, c'est pas drôle non plus, hein, non. Quand on laisse penser en permanence que vous êtes passé par le canapé pour obtenir telle ou telle promotion, c'est quand même assez insupportable, et c'est pas mieux que de laisser entendre en permanence, comme c'est souvent le cas me concernant, que... j'aurais une double allégeance, qu'en vérité, je voudrais faire passer les intérêts de tel autre pays avant ceux de la France, et que mon objectif non avoué, c'est de détruire la civilisation française. En fait, tout est désagréable.
Je ne sais pas relayer celle-là, vous remarquerez, parce que c'est tellement...
Tout est désagréable.
Ça émane aussi d'une sphère un peu différente aussi.
Ouais, mais malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que... Enfin, vous le savez autant que moi, la fachosphère a vraiment pris pied sur le web et dans la place. Et pour l'instant, c'est très difficile de la déloger. Mmh. Elle est indélogeable. Mmh. Et nous autres, militants d'autres formations politiques... on a beau essayer d'organiser aussi du militantisme sur le web pour que n'y traîne pas uniquement cette parole horriblement noire, ça marche pas parce que en fait nos propres militants sont écœurés. Enfin, je veux dire, ça vous pompe une énergie de lire tout ça, d'y répondre en permanence, de se faire insulter, etc. Donc du coup, ils désertent à leur tour. Et finalement, le web est quand même aujourd'hui assailli par la fachosphère. Et le problème, c'est que ça impacte. Hein. Il ne faut pas croire que ça ne parle qu'à ceux qui font déjà partie de la fachosphère. Quand un individu normalement constitué, mais aux idées politiques pas encore forcément très arrêtées, etc., se balade sur le web et qu'il y trouve en permanence des choses qui passent pour de la vérité alors qu'elles n'en sont pas, il finit par être convaincu que c'est vrai. Moi, j'avais été frappée. Un jour où j'étais dans les Landes, donc vous voyez vraiment, alors en pleine campagne, puis dans un sud-ouest qui est un sud-ouest extrêmement généreux, accueillant, c'est vraiment une région de France que j'adore. Je déjeune avec des voisins, etc. Enfin bref, des amis, des voisins et tout ça. Puis parmi eux, il y avait une dame d'un certain âge, mais qui visiblement allait quand même sur le web, très gentille avec moi et tout ça et tout ça. Puis à un moment donné, dans la discussion, elle me dit « Non, moi je vous aime bien, tout ça, ce que vous faites. Par contre, je comprends pas, pourquoi vous voulez imposer l'arabe aux enfants de CP je comprends pas l'intérêt. Oh » Alors là, franchement, ouais. ça a acheté un froid. Je lui dis « Mais je comprends pas, où est-ce que vous avez lu ça ? Où est-ce que vous avez lu ça ? C'est pas vrai. » Elle me dit « Ah bon ? Ah non, je l'ai vu écrit au moins 5-6 fois par des relais différents, les lettres là, qu'on envoie par mailing list, ah les ouais, trucs, les machins, les newsletters, les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, oui, ça finit par impacter les gens. Hein. Donc, c'est quand même très, très préoccupant.
Ouais.
Et je sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs, mais... je sais ce qu'il faut faire en tout cas pour les jeunes.
Ouais.
C'est une éducation aux médias et à l'information, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure.
Une information fiable, ouais. Ce qui ne l'est pas.
Mais pour les adultes, voilà.
Et les femmes, alors ? Votre premier job politique, c'est en 2002 comme assistante parlementaire de Béatrice Marre, une ancienne chef de cabinet de François Mitterrand. Un de vos premiers grands rôles sur la scène nationale, c'est celui de porte-parole de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle de 2007. Est-ce que la solidarité féminine a joué un rôle dans votre carrière ?
Oui, à certains égards, c'est-à-dire que je l'ai bien vu par exemple sur les combats menés aux droits des femmes, c'est quand même bien agréable de pouvoir compter en effet sur une forme de sororité de combat, c'est clair. Moins à d'autres égards, c'est-à-dire que on est encore malheureusement dans une situation où certaines femmes, une fois arrivées tout là-haut au sommet, se dépêchent de faire tomber l'échelle pour éviter que d'autres la prennent à leur tour.
Ferme bien la porte derrière toi.
Non, franchement, ça existe aussi, il faut le dire, parce que sinon on n'est pas honnête. Et donc ce réflexe-là, il continue à fonctionner, mais moi je me dis qu'il continuera à fonctionner tant qu'on sera des exceptions en fait au sommet, et qu'il faut vraiment dépasser au moins le seuil de 30% pour être naturellement dans notre élément, et donc ne plus se poser de questions comme ce qui fait ma valeur, c'est ma rareté, donc s'il y a trop de femmes autour de moi, j'aurai moins de valeur, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Enfin, c'est... mais c'est une réalité.
Alors, il y a un épisode en particulier dont j'aimerais parler avec vous l'avez un peu évoqué, c'est l'un de vos derniers chantiers comme ministre des droits des femmes, les fameux ABCD égalité. Alors, leur ambition était somme toute bien modeste, hein, si je ne me trompe pas, c'était de casser les stéréotypes de genre faisant rage à l'école, de promouvoir une meilleure orientation pour les jeunes filles, notamment qui sont souvent orientées vers des filières bien précises, par exemple le soin à la personne. Moi, j'ai surtout le souvenir des violences, des réactions à l'époque, et je me demande comment vous le comprenez aujourd'hui. Est-ce que la France n'était pas prête à entendre que les hommes et les femmes sont égaux ?
Mais la réponse est dans votre question, et même dans l'étonnement que vous manifestez. Mais la réponse est là, c'est-à-dire que, en fait, moi aussi j'étais surprise. Moi aussi j'étais surprise. Mais oui, des choses qui nous paraissaient évidentes. Il faut progresser dans le sens d'une meilleure égalité femmes-hommes. Soudain sont apparues pas si évidentes que ça pour des gens qui ont utilisé des méthodes absolument exécrables de manipulation, de mensonges permanents, de diffamation pour jeter l'opprobre sur ce programme des ABCD qui franchement était simplement une mallette avec des outils pour que les enseignantes et les enseignants à l'école primaire expliquent aux filles et aux garçons que oui, quand on est une fille, on peut faire pompier, quand on est un garçon, on peut travailler dans une crèche, enfin des choses comme ça. Hein. C'était vraiment extrêmement dangereux pour la civilisation.
C'est de l'idéologie même, on vous l'a dit carrément.
Et donc voilà, ces personnes qui ne voulaient pas de tout ça ont utilisé le mensonge, sont allées raconter à des parents d'élèves que en fait, ce qu'on allait apprendre à leurs enfants, c'était qu'ils pouvaient changer de sexe s'ils le voulaient, ou d'orientation sexuelle, etc. Donc évidemment, il y a une espèce d'hystérie collective qui s'est mise en route à ce moment-là, avec des responsables politiques qui ont joué les irresponsables, qui ont jeté de l'huile sur le feu. Je vous rappelle quand même que l'un d'entre eux est allé jusqu'à venir sur un plateau télé avec un livre pour enfants et à dire « mais vous vous rendez compte, ce qu'il y a écrit dans ce livre pour enfants, c'est scandaleux, etc. » comme s'il voulait brûler en place publique des livres pour enfants. Donc du coup, l'opprobre a même été jeté au-delà des ABCD d'égalité sur l'ensemble de la littérature jeunesse. On s'est retrouvé dans certaines municipalités FN à avoir des maires qui faisaient la chasse à certains ouvrages jeunesse dans les bibliothèques municipales. Mais quelle horreur, rien que de vous re-raconter tout cela. Franchement, j'en ai la nausée, vraiment. Et tout ça parce que il y avait une espèce d'alliance étrange entre des intégristes. Parce que c'était ça, des intégristes qui, au nom de la religion, ne voulaient pas qu'on remette en cause les fondamentaux de la hiérarchie entre les sexes. Des gens qui, après avoir perdu le combat contre le mariage pour tous, se cherchaient une nouvelle raison d'être, c'est la manif pour tous, et donc ont trouvé la théorie du genre comme nouveau cheval de bataille. Des fous, quoi. Donc c'est tout ce magma qui a réussi à créer cette hystérie, et moi je la regrette profondément. Et en plus, franchement, on a été un peu la risée du monde, du monde sur ces sujets. Mais après, lorsque il a été décidé forcément de passer à autre chose, parce qu'il fallait quand même calmer aussi cette hystérie, quoi qu'on en pense. Ce qui a été mis en place, c'est-à-dire un plan d'égalité filles-garçons qui passait par la formation des enseignants dans les écoles supérieures du professorat sur ces questions de détection, des stéréotypes, etc. C'est très intéressant. Alors, il y a un rapport qui est sorti là, la semaine dernière, qui dit qu'il faut aller plus loin, que pour l'instant la moitié des écoles supérieures du professorat le font vraiment, mais pas l'autre moitié. Oui, non, mais moi je suis d'accord, il faut aller plus loin, c'est sûr. En même temps, regardez les résistances que ça provoque, ça prend du temps, c'est ce genre de choses.
Ouais. Alors, il y a un autre épisode un peu douloureux dont j'ai envie de vous parler, c'est la sombre affaire du Burkini. À l'époque, vous êtes opposée à Emmanuel Valls assez frontalement sur l'épisode. Est-ce que les images de cette femme qu'on a chassée d'une plage parce qu'elle portait un foulard sur la tête, chassée Manu Militari, vous ont choquée, comme elles ont choqué beaucoup de féministes en France?
À l'époque, clairement... moi, je déteste l'instrumentalisation de ces sujets-là. Et vraiment, je veux le redire ici parce qu'il faut être juste avec les gens. C'est pas tant à Manuel Valls que je me suis opposée à ce moment-là. C'est à ces mères qui, alors qu'ils n'avaient jamais vu un burkini sur leur plage, adoptaient des arrêtés anti-burkini. Enfin, on voyait la tournure que ça allait prendre, ça allait devenir le nouvel outil de stigmatisation de population, qu'elle porte ou qu'elle porte pas le burkini, parce que potentiellement elle pourrait porter le burkini. Et c'est ça qui m'a profondément déplu. Et puis par ailleurs, c'est quand même, même j'allais dire juridiquement, quand on s'intéresse un peu à nos libertés fondamentales, c'est quand même une sacrée question que de se dire dans l'espace public, hein, une plage c'est un espace public, hein. Jusqu'où on accepte que vous couvriez ou que vous vous découvriez. Enfin, je veux dire, c'est... A contrario, d'ailleurs, on pourrait faire aussi le même exercice sur est-ce qu'on a le droit d'être seins nus ou pas, et adopter des législations pour dire, pas sur ma plage. Enfin, non, quoi.
D'ailleurs, le Conseil d'État a rejeté ces décrets, il les a déclarés inconstitutionnels.
Pour cette raison-là. Pour cette raison, parce qu'ils allaient trop loin dans l'atteinte aux libertés fondamentales. Donc...
Il y a quand même toute une frange de la gauche qui, au nom de la laïcité, s'engouffre dans ce genre de comportement, de vision de la femme.
Oui, mais faire attention à ça. Faire attention. Moi, ce que je demande sur ce sujet, soyons clairs, hein, c'est absolument pas de la complaisance... avec telle ou telle population. Non, moi, je veux juste que les mêmes règles soient appliquées avec toutes les populations, tous les individus. Moi, je crois très fort à la laïcité parce que je la comprends. Enfin, en tout cas, il suffit de lire la loi de 1905 pour la comprendre. Donc, beaucoup des gens qui la dévoient aujourd'hui et qui l'instrumentalisent, visiblement, ne l'ont pas lue ou font exprès de ne pas la comprendre. Mais la loi de 1905 et la laïcité, c'est une loi de protection. C'est la garantie que vous et moi seront traités de la même façon par les pouvoirs publics et par les services publics, quelle que soit notre conviction ou absence de conviction. Que vous n'aurez pas plus droit à l'école parce que vous êtes catholique et moi musulmane, que je n'aurai pas plus droit à être soignée parce que je suis musulmane et vous catholique, etc. C'est quand même majeur. La laïcité, c'est d'abord une règle qui s'impose au pouvoir public. C'est une règle de neutralité à l'égard des citoyens. Et c'est ce qui protège les citoyens qui savent qu'ils seront pareillement traités. Dans quel interstice faut-il aller se faufiler? Avec quelle mauvaise intention faut-il y aller pour en venir à dire « Mais non, en fait, il faut empêcher tel individu de s'habiller de telle ou telle façon dans l'espace public. » Mais ça n'a rien à voir. De quoi on parle? C'est pas l'espace public qui doit être neutre. C'est les services publics. C'est... Voilà, vous voyez la différence.
Oui. En fait, c'est dévoiement, super que vous la rappeliez.
Mais ce dévoiement, ce qui est terrible, c'est que ça fait des années qu'il dure dans le débat public. Et ce faisant, il a fini par donner l'impression à des tas de gamins, et à leur famille d'ailleurs, que la laïcité, c'était un truc dirigé contre l'islam. En fait, c'est politique, là-haut, quand ils nous parlent de la laïcité, en fait, ils veulent nous faire violence pour ce qu'on est, nos cultures, nos racines, nos familles, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que sont arrivés les incidents dans les écoles, d'élèves qui ne veulent pas respecter la laïcité, etc., mais parce qu'ils la vivent comme une violence, et que, en effet, dès qu'ils allument la télé, c'est de ça qu'on leur parle. Donc, il y a eu tout un travail à faire depuis 2012 de pédagogie de la laïcité pour aller l'expliquer dans les écoles. Charte de la laïcité, journée de la laïcité le 9 décembre, avec des projets qui sont construits avec les enseignants, avec les familles et tout ça. Et franchement, ça fait du bien, en fait. Ouais. Ça, de ce point de vue-là, je vous assure, je sais bien que les médias font pas souvent ce travail, c'est pas faute de les y inviter, mais franchement... Se balader dans les écoles, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, en 2017, sur la question de la laïcité, on est quand même mieux qu'en 2012. Hein. C'est quand même plus apaisé parce qu'il y a un travail de pédagogie qui a été fait. Et ma crainte, C'est que là encore, tout vienne à s'arrêter ou à revenir à l'instrumentalisation permanente.
D'ailleurs, ça nous amène directement à la question que je voulais vous poser ensuite. Vous avez affronté récemment Marine Le Pen dans l'émission politique. Moi, personnellement, d'ailleurs, elle en use de plus en plus récemment, l'argument des droits des femmes pour oui. nourrir le sentiment islamophobe en France. Comment on lutte contre ça quand on est féministe, en fait, quand on a une idée un peu plus précise de ce que c'est que le droit des femmes?
D'abord, je pense que il y a une hygiène du débat public à avoir avec Marine Le Pen qui consiste à ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'elle raconte.
Ouais.
C'est pas parce qu'elle se dit féministe. Non, mais c'est la base, quoi. Je veux dire, c'est pas... Mais c'est d'ailleurs, puisque vous parliez du débat que j'avais avec elle, c'est ce qui rend très délicat l'exercice de débat télévisuel avec elle, c'est qu'en fait elle raconte n'importe quoi à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, mais c'est terrifiant. Et du coup, moi je vois bien, j'ai eu des commentaires juste après ce débat, y compris d'amis, bon, beaucoup me disant formidable, c'est bien d'y être allée très offensive, etc., mais certains me disant mais tu l'as coupé sans arrêt, tu as été très agressive.
Ah, mais c'était important. Vous disiez, vous mentez.
Mais
vous
oui.
mentez. Vous asseignez mais à chaque oui. mensonge, vous mentez. Mais c'était important que vous le disiez.
Mais moi, je trouve que c'était important. Mais c'est intéressant de voir que, y compris parmi mes amis, il y a des gens qui aient mal vécu cette espèce de... Et je leur ai répondu. J'ai répondu, mais c'est parce que, en fait, vous ne savez pas comment aller quand elle débat. Moi, j'ai préparé ce débat, donc je l'ai regardé débattre. Donc, je sais parfaitement ce qu'elle fait. Elle se lance dans des tunnels interminables où elle dit 12 mensonges d'affilée, et en fait, si vous la laissez parler et que vous ne l'interrompez qu'au 11e mensonge, les Français qui ont écouté pensent que les 10 précédents étaient des vérités. Voilà comment ça se passe. Elle ne répond jamais à vos questions, sur aucun sujet, elle nous voit, machin, hein, elle est... Bon, bref. Et donc, j'en reviens à comment débattre avec elle et cette hygiène du débat. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce qu'elle raconte. Ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle est féministe qu'elle l'est. En quoi elle est féministe? En 2012, elle proposait... comment elle appelait ça, un revenu parental ouais. ou je sais pas quoi, pour maintenir les femmes à la maison. En 2012, elle parlait des IVG de confort. C'est pas parce que maintenant, madame retourne sa veste, parce que finalement, dans l'opinion publique, ça se fait plus trop d'être contre l'IVG, mais qu'en même temps, elle maintient quand oui, même dans sa propre famille fou, politique voilà. des gens qui clairement manifestent contre l'IVG, demandent son déremboursement... C'est insupportable. Alors là, vraiment, je crois que sur la question du féminisme, c'est ce qui m'énerve le plus. Bon, il y a quand même d'autres sujets. Le fait de vouloir empêcher les enfants de familles étrangères d'accéder à la scolarisation gratuite, c'est aussi un sacré sujet. Mais donc, voilà. Donc ne rien lui prêter, ne rien lui donner... Voilà, parce qu'en réalité, tout est mensonge. Tout est mensonge. C'est terrifiant.
On a quand même vu aux États-Unis quelqu'un qui mentait beaucoup, oui, convaincre une partie de la population assez ça, importante c'est pour accéder au pouvoir. Vous avez peur aujourd'hui qu'elle soit élue?
Moi, je pense que c'est possible, oui. Moi, je pense que c'est possible. Et qu'il faut vraiment un sursaut des Français. Parce que, en fait, ce qui me fait dire que c'est possible, c'est que je trouve que ça fait des années qu'on vit avec une espèce de discours décliniste permanent sur tous les sujets. Y compris, on l'a vu pendant ce quinquennat, alors que honnêtement, ce quinquennat, quand même, a été un quinquennat d'efforts, de reconstruction de plein de choses. Je pense à l'éducation, mais il y a plein d'autres sujets, santé, etc. Et bien, malgré tout, quand vous allumiez votre télé, quand vous lisiez la presse, quand vous écoutiez globalement les commentaires, on était toujours sur le mode... c'est une catastrophe, notre école est très fondue, très fonde, notre hôpital public ne fonctionne plus, notre économie, regardez, comparez-la avec les économies voisines, on va encore plus mal que les autres par rapport à l'Allemagne, blablabla. Discours décliniste permanent, ne correspondant pas à la réalité, je veux dire... Prenons l'école, par exemple. C'est vrai que ça allait mal en 2012, indéniablement, puisque des sacrifices énormes y avaient été faits par l'ancienne majorité. Mais enfin, depuis, on l'a reconstruit quand même. Il se passe des choses, ça va mieux. Ça, c'est pas dit que ça va mieux. Et bien, à force d'avoir ce discours décliniste, du coup, les Français, ben, ils se disent, mais puisque tout va mal, après tout, autant essayer ce qu'on n'a pas essayé, à savoir Marine Le Pen. Et quand vous venez et que vous leur dites, mais vous vous rendez compte qu'elle va tout détruire, mais ils sont bien... placé pour vous répondre, mais détruire quoi puisque tout est déjà détruit? En fait, les observateurs et ceux qui écrivent, là, ceux qui alimentent ces chroniques du déclin en permanence, il faut qu'ils aient conscience de leur responsabilité, vraiment. Parce que c'est eux qui, finalement, installent cette espèce de terreau sur lequel prospère le aquabonisme et le essayons autre chose, quoi qu'il nous en coûte.
Je suis un peu déprimée, là.
Non, je suis désolée.
J'aurais aimé que vous me disiez, mais non, jamais.
Non, je suis désolée, mais moi, franchement, Après, comme j'aime beaucoup ce pays et je pense que les Français ont des ressources insoupçonnées, je pense que c'est toujours possible d'avoir ce sursaut. Mais ce qui est pénible, c'est que quand même, vous voyez, par rapport à 2002, où Jean-Marie Le Pen est arrivé au premier tour, il y est arrivé par surprise au premier tour.
Ouais.
La différence cette fois-ci, c'est que ça fait des mois qu'on sait que Marine Le Pen sera au second tour.
Et puis dans les projections, elle est à 40, alors qu'à l'époque, Jacques Chirac avait fait 80%. C'était hors de question qu'il dépassait les 20% au second tour.
Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'apathie générale, alors que ça fait des mois que l'on sait qu'on... Enfin, voilà, qu'on
une résignation. Cette situation.
Une impuissance. Une impuissance, parce que même quand les médias font leur travail, parce qu'il leur arrive de le faire, par exemple typiquement avec les affaires et tout ça, et que voilà, ils communiquent sur le nom main propre du Front National, puisque leur slogan pendant longtemps ça a été peut-être haute main propre, ben non, en fait ni l'un ni l'autre. même quand les médias communiquent là-dessus, on a l'impression que ça produit rien derrière, que ça dissuade pas les gens de leur faire confiance ou de voter pour eux. Bon, donc c'est impuissance, apathie, impuissance.
Vous ferez quoi, vous, si elle passe ?
Bon, moi, de toute façon, moi, je me battrai, quoi qu'il en soit, mais je me battrai aussi si la droite passe.
Oui.
Moi, je suis candidate aux législatives, je voudrais être députée, et je me prépare à exercer un mandat si je suis élue, hein, c'est pas encore fait, mais à exercer un mandat, si c'est un mandat d'opposition, qui sera un mandat de résistance.
Ouais.
Mais vraiment, acharné. C'est-à-dire que, en fait, le fait d'avoir vécu toute l'expérience qu'on se rappelle depuis tout à l'heure, d'avoir été l'objet moi-même d'un certain nombre quand même d'attaques, de dénigrements, etc., en même temps, ça m'a bien préparée à être à l'offensive, là. Ce sera un mandat de résistance acharné, et je ne les lâcherai pas sur tous les sujets qui me tiennent à cœur, et puis je ferai le maximum possible pour empêcher le détricotage social. Donc moi aussi, je saurai attirer l'attention de l'opinion publique sur les sujets qu'il faut à ce moment-là.
Et là, ça va mieux.
Non, mais c'est vrai, et je pense que tous les parlementaires, si on devait être dans l'opposition, devront être dans cet état d'esprit, hein, parce que ce ne sera pas une alternance gentil-gentil.
Ouais. Moi, cette angoisse que vous avez réveillée en moi, mais qui est déjà bien présente, rassurez-vous, elle m'envoie à mes enfants. Moi, sérieusement, j'ai peur pour mes enfants. J'ai un peu peur du monde dans lequel ils vont grandir. Ils sont un peu plus jeunes que les vôtres, mais vous avez un garçon et une fille qui sont petits aussi. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que vous leur transmettez une conscience politique ?
J'essaie de pas trop parler de politique avec mes enfants parce que, en fait, je savoure le fait d'avoir pu être ministre avec des enfants en bas âge. Parce que je pense que ça doit être vraiment, vraiment difficile d'être ministre avec des enfants adolescents, vous voyez. Parce que, alors là, du coup, ils se prennent tout dans la figure, hein,
ouais,
en permanence,
hein,
sur les réseaux, dans la cour d'école, etc. Alors que j'ai eu une chance incroyable, qui est que j'ai commencé à être ministre en 2012, ils avaient 3-4 ans. Là, je termine, ils ont 9 ans.
Ils vont commencer à avoir un portable maintenant.
Ils ont 8 ans, oui, exactement. Pour l'instant, je ne leur ai pas autorisé tout ce qui est accès à Internet, etc. Et donc, du coup, ils sont un peu quand même passés à côté, parce que vous imaginez, je veux dire, ça m'est arrivé une fois qu'ils ne passent pas à côté de ça, et ça m'a, franchement, ça m'a détruite intérieurement, sincèrement. C'est une fois où mon fils est tombé, alors c'est de ma faute parce que j'avais laissé le magazine traîner, est tombé sur un exemplaire de Valeurs Actuelles sur lequel je figurais en photo en couverture avec marqué comment elle élève nos enfants dans la haine de la France. Bon, Valeurs Actuelles, sympathique.
En même temps, voilà.
Et donc je vois mon petit garçon en plus très émotif et tout ça, tellement chou, qui vient me voir dans le salon où j'étais avec ce magazine à la main et qui me dit « Maman, avec une voix tremblotante, donc il sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, il me dit « Maman, pourquoi ils disent que tu élèves nos enfants dans la haine de la France ?»
Château.
Non, c'est horrible, honnêtement, ça. Et là, en une fraction de seconde, je me suis dit, oh mon Dieu, comment j'ai réagi. Et là, je suis partie d'un éclat de rire simulé, bien sûr, en lui disant, mais non, mais c'est une blague, c'est des humoristes, tu vois.
Pas mal.
Voilà, c'est de l'humour, c'est comique et tout. Ah d'accord, mais je vais le garder, hein. Vas-y, va jouer, je vais le garder. Mais ça m'a tellement énervée intérieurement, vous n'imaginez pas. En fait, c'est ça, finalement, les attaques, quand il n'y a que moi, c'est pas grave, parce qu'on se carapace. Mais là, quand ça touche les petits... Donc, pour revenir à votre question, la politique, du coup, j'essaie d'éviter de leur en parler beaucoup, mais en fait, ils me font rire parce qu'ils ont quand même compris des trucs et tout. Alors, du coup, ils ont bien compris que leur maman était de gauche. Alors... Alors, des fois, ils me sortent des espèces de théorèmes sur la gauche, la droite. Ça me fait trop rire. Genre, j'ai partagé mon goûter parce que moi aussi, je suis de gauche. Ah, maman. Chose comme ça, mais c'est tellement chou. Donc, voilà. Donc, j'espère que je ne les dégoûterai pas de la politique parce qu'il y a souvent ce genre de réaction dans les enfants, une espèce de mise à distance de ce que faisaient les parents. Mais là, pour l'instant, ça va.
Alors, ça mène directement à la question, ma question suivante, qui est un petit peu bizarre, mais c'est un rituel dans l'émission, je la pose à toutes les femmes que je reçois. Comment vous entendez-vous avec votre utérus ?
Oula !
Elle peut surprendre.
Qu'est-ce que vous attendez comme réponse là-dessus ?
Bah, en fait, j'attends pas de réponse, j'obtiens des réponses qui sont toujours assez diverses, mais dans mon esprit, c'était... J'ai l'impression que l'utérus des femmes, en fait, c'est vraiment ce qui pose problème systématiquement. Si on est mère, ça va pas. Si on n'est pas mère, ça va pas non plus. C'est l'organe qui nous renvoie en permanence à notre fonction reproductive, en fait. Ouais. Voilà, on peut être apaisé hein, avec lui.
Non, je suis apaisée. J'aimerais bien qu'il m'offre la possibilité d'être mère à nouveau.
Ah, ça, c'est
j'aimerais bien, réponse. Ouais.
Vous allez avoir le temps.
Bah oui, c'est vrai. En plus, c'est le moment ou jamais. Mais ça se commande pas, ces choses-là. Mais j'aurais bien aimé, même dans des temps où j'étais plus occupée. Je trouve que c'est magnifique, la maternité, moi.
Et pas du tout incompatible, pas du tout un frein à l'exercice de responsabilité.
Non, mais je pense que ça doit être compliqué quand même. Hein. Mais enfin, regardez, par exemple, dans le gouvernement, Juliette Méadel a été nommée ministre alors qu'elle était enceinte de mémoire de quasiment 5 mois. Donc elle a accouché, ou 6 mois, elle a accouché 3 mois après. Voilà, c'est faisable. Hein.
Elle est ministre de l'aide aux victimes, c'est
de
ça.
De l'aide aux victimes, ouais.
Ouais. Un dur boulot en plus.
Oui, parce qu'en plus pour elle c'était horrible parce que, enfin, vous êtes mère vous-même ou pas ?
Oui.
Donc vous voyez à quoi ça ressemble une femme qui vient de mettre au monde un enfant. C'est une espèce de fontaine de larmes en fait, hein, d'une sensibilité exacerbée.
Ouais.
Et là vous êtes en charge de l'aide aux victimes, c'est-à-dire que le lendemain ou le surlendemain vous devez aller auprès des familles, des victimes, des proches, etc. Et c'est horrible, quoi. Je sais pas comment on tient. Ça,
juste sentir d'empathie avec elle plus.
Ah, ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup pensé à elle. Mais elle est forte. Elle est forte.
Bon, ma dernière question, c'est la poudre, le nom de l'émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous quand je vous dis la poudre ?
Moi, la poudre. pour se faire belle, quoi. Aller se repoudrer, j'adore cette expression. Voilà, c'est d'abord ça. Après, sinon, la poudre. Des explosifs, des choses comme ça, c'est ça que c'est censé évoquer.
Ouais, vous avez évoqué les deux extrêmes que ça peut évoquer.
Moi, plutôt alors la beauté.
Mais vous avez commencé par le blush.
C'est mieux.
Merci à Najat Vallaud-Belkacem d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur « La Poudre ». La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.